Chapitre 56. Le père capitaine de Soyin est étonné quand il lui répond sur le canal libre. Il n'aurait jamais cru que leur communicateur archaïque fût capable d'émettre sur le faisceau étroit établi par le vaisseau. Il y a même une image. C'est la représentation au lot très flou de deux visages brûlés, noircis de suie, qui flottent au-dessus du moniteur central. Le caporal Key se tourne vers de Soya pour murmurer
« Que je sois damné, père capitaine !»«
Moi aussi, » fait de Soya.
S'adressant aux deux visages, il murmure
« Je suis le père capitaine de Soya, du vaisseau de la Pax Raphaël.
Je me souviens très bien de vous !»
réplique aussitôt la fillette.
De Soya se rend compte que le vaisseau transmet également des images au lot qu'ils peuvent voir. Sans doute leur apparaît-il sous la forme d'un visage fantôme miniature, surmontant un col romain et flottant au-dessus du poignet du jeune homme, où se trouve son père Soc.
« Je me souviens de vous aussi, » fait de Soya. C'est tout ce qu'il trouve à dire. La poursuite a été si longue.
Il scrute les yeux noirs et la peau pâle sous la suie et les brûlures superficielles.
Elle est si proche à présent.
C'est Rol Endymion qui parle.
Qui était cette femme? Cette chose?
De Soya secoue la tête.
Je l'ignore.
Elle disait s'appeler Radamante Nemes. On nous l'a assignée il y a quelques jours à peine. Elle prétendait faire partie d'une nouvelle légion qu'ils sont en train de...
Il s'interrompt soudain.
Tout cela est secret.
Il est en train de parler à l'ennemi.
Il jette un coup d'œil au caporal Key. Dans le petit sourire de ce dernier, il voit un condensé de leur situation. Ils sont condamnés, de toute manière. Elle prétendait faire partie d'une nouvelle légion de guerriers formés par la Pax, reprend-il. Mais je ne pense pas qu'elle nous ait dit la vérité. Je ne crois pas qu'elle ait été humaine.
Amen,
fait l'image de Rol Endymion. Le petit visage se détourne quelques instants du père Soc, puis le regarde de nouveau.
Notre ami est en train de mourir, père capitaine de Soya. Pouvez-vous faire quelque chose pour lui?
Le prêtre capitaine secoue la tête.
Nous ne pouvons pas arriver jusqu'à vous. Cette créature, Nemes, s'est emparée de notre vaisseau de descente et a court-circuité notre autopilote télécommandé. Impossible de communiquer avec. Mais si vous arrivez à le rejoindre, il y a une machine autochirurgicale à bord.
« Où se trouve-t-il »
demande Aîné. Le caporal Key se penche en avant vers le champ imageur.
« D'après nos radars, il est à 1,5 km de vous environ, en direction du sud-est, dans les collines. Il est camouflé, mais vous n'aurez pas de mal à le trouver. Nous vous guiderons. »
« C'était votre voix dans le père Soc qui nous a crié d'aller dans les rochers ?»«
Oui, » fait Key. « Nous avons concentré toute l'énergie du vaisseau dans le système tactique. » Cela représente environ 80 gigawatts à transporter à travers l'atmosphère. Mais l'humidité du sol aurait été vaporisée et vous aurait tué. Les rochers, c'était mieux.
Elle y est arrivée avant nous, fait Rol en tordant la bouche pour sourire.
Justement, c'était le but.
Merci,
murmure Aîné. Le caporal Key hoche la tête, embarrassé, et sort du champ.
Comme vous le disait ce brave caporal, continue le père capitaine de Soya. Nous sommes disposés à vous guider jusqu'au vaisseau.
Mais pourquoi?
Demande l'image floue de Rol.
Et pour quelle raison avez-vous anéanti votre propre créature?
Le prêtre capitaine secoue la tête.
Ce n'était pas ma créature.
Celle de l'Église, alors. Pourquoi?
J'espère que ce n'était pas non plus la créature de l'Église,
fait tranquillement de Soya.
Mais si elle l'était vraiment, c'est que mon église est devenue un monstre.
Un silence s'établit, uniquement rompu par le léger sifflement de la transmission sur faisceau étroit.
Vous feriez mieux de vous mettre en route,
déclare finalement de Soya.
Il commence à faire nuit.
Les deux visages en représentation au lot regardent autour d'eux d'une manière presque comique, comme s'ils avaient complètement oublié leur environnement.
« Vous avez raison, »
murmure Rol. « Et votre rayon ou BCC ou je ne sais pas trop quoi a fondu toutes mes affaires, y compris ma lampe. »
je pourrai éclairer votre chemin,
fait De Soya sans sourire. Mais cela signifie qu'il faudrait activer de nouveau tout le système tactique.
Merci bien,
réplique Roll. Nous allons nous débrouiller comme ça. Je coupe l'imageur, mais nous resterons en contact audio jusqu'à ce que nous arrivions au vaisseau.
Chapitre 57. Il nous fallut plus de 2 heures pour parcourir les 1500 mètres. Les collines de lave étaient très accidentées. Même sans le poids de l'homme bleu sur mon dos, j'aurais risqué à tout moment de me briser une cheville dans une crevasse ou contre une aspérité. Et il faisait très sombre. De gros nuages occultaient les étoiles. Je ne pense pas que nous y serions arrivés si Aîné n'avait pas retrouvé la torche laser dans l'herbe au moment où nous rassemblions nos quelques affaires intactes pour partir.
Comment diable est-elle arrivée ici ? M'étonnais-je.
La dernière fois que je l'avais eue en main, j'étais en train de la braquer sur les yeux de cette femme infernale. Puis elle avait disparu subitement.
Peu importe, après tout, me dis-je.
De toute manière, c'était la journée des mystères. Nous en laissions d'ailleurs un derrière nous, et de taille, sous la forme du Gritch, toujours figé à l'endroit où il avait fait sa réapparition. Il ne donnait aucun signe de vouloir nous suivre. Ce fut Aîné qui ouvrit la voie avec la torche réglée sur faisceau large. Nous progressions lentement et péniblement sur les roches noires et les cendres. De temps à autre, nous nous arrêtions pour nous occuper de l'androïde. Le Medipack eut vite fait d'épuiser sa réserve d'antibiotiques, de stimulants, d'analgésiques, de plasma et de sérum pour perfusion intraveineuse. C'était grâce à lui que notre ami était encore vivant, mais combien de temps cela allait-il durer ? Il avait perdu beaucoup trop de sang dans la rivière. Le garrot avait ralenti l'hémorragie, mais ce n'était pas suffisant. Nous le ranimions quand c'était nécessaire pour que son cerveau, au moins, continue d'être irrigué, et nous cessions les mouvements quand l'alarme du Medipack se mettait à couiner. Le Persoc, par la voix du caporal de la Pax, continuait de nous guider vers le vaisseau, et je devais admettre que même si tout cela n'était qu'un stratagème pour capturer Aîné, nous devions tout de même une fière chandelle à ces deux hommes. Pendant que nous progressions avec peine dans la pénombre, la torche d'Aîné éclairant les formes noires des rochers et celles des arbres morts, qui ressemblaient à des squelettes fantasmagoriques, je m'attendais presque à voir surgir du sol la main chromée de Radamante Némès pour m'agripper la cheville. Nous trouvâmes le vaisseau à l'endroit que nous avaient indiqué les deux hommes de la Pax. Aîné commença à gravir les échelons de métal qui conduisaient au sas, mais je l'agrippai par la jambe de son pantalon en lambeaux et la forçai à redescendre. « Je préfère que tu ne montes pas à bord, ma grande, » lui dis-je. « On ne sait jamais. Ils n'ont peut-être pas dit la vérité en affirmant qu'ils ne peuvent pas télécommander le vaisseau. S'ils ont menti, tu seras leur merci là-dedans. » Elle s'adossa, épuisée, à l'échelle.
« Je leur fais confiance, » me dit-elle. « Ils auraient pu,
je sais. » Mais deux précautions valent mieux qu'une. Tu restes ici pendant que je fais monter Abétique à bord pour voir s'ils ont vraiment une machine d'autochirurgie. Je gravis lentement les échelons, non sans un serrement de cœur. Et si le sas était bloqué ? Si la femme infernale avait les clés dans la poche de sa combinaison ? Il y avait un pavé numérique éclairé à côté de la porte.
« 6992 »,
me dicta la voix du caporal Key par l'intermédiaire du Persoc. Je tapai le code. La porte extérieure du sas s'ouvrit. L'autochirurgien était bien là et il s'activa lorsque je le touchais. Je déposai délicatement mon ami à la peau bleue dans le logement capitonné, en prenant bien soin de ne pas en heurter les côtés avec son moignon à vif. Je m'assurai que les pastilles de diagnostic et les manchons de pression se positionnaient correctement, puis refermai le couvercle, qui ressemblait beaucoup trop à celui d'un cercueil. Les diagnostics n'étaient pas très prometteurs, mais l'autochirurgien se mit aussitôt au travail. Je surveillais quelque temps les moniteurs, puis je m'aperçus que ma vision se brouillait et que j'étais sur le point de m'endormir debout. Je me frottais les joues et retournais à l'entrée du sas.
« Tu peux grimper sur l'échelon du bas, ma grande !»
criai-je à Aîné.
« Si tu vois que le vaisseau va décoller, tu sautes !»
Elle fit ce que je lui disais et éteignit la torche. La seule lumière qui nous éclairait à présent venait de l'autochirurgien et de la console de commandement.
« D'accord !» me répondit-elle. « Je saute et le vaisseau décolle avec Amétique et toi. Je serai bien avancé alors. Qu'est-ce que je ferai ?»«
Tu cours vers le portail suivant !»«
Nous comprenons que vous soyez suspicieux, » fit la voix du père capitaine de Soya à travers le persoc. Assis à l'entrée du sas, écoutant le bruissement du vent qui soufflait des débris végétaux contre la coque du vaisseau, je demandai d'une voix tranquille. « Pourquoi ce revirement, père capitaine ? Vous vouliez capturer Aîné ? À quoi puis-je attribuer cette volte-face ? Je songeais à la poursuite dans le système de Parvati et à l'attaque qu'ils avaient déchaînée sur le vecteur Renaissance. » Au lieu de me répondre directement, la voix du prêtre capitaine murmura « J'ai votre tapis au King, Roland Dimion. » « Ah oui ? » répliquai-je d'un ton las. J'essayais de me souvenir à quel moment je l'avais vu pour la dernière fois. Volant vers la plateforme océanique de Mare Infinitus, sans doute.
« L'univers est petit, » déclarai-je comme si tout cela n'avait plus beaucoup d'importance.
Dans mon fort intérieur, je me disais que j'aurais donné n'importe quoi pour avoir ce petit tapis volant avec moi en ce moment. Accroché à son échelon, Aîné écoutait. De temps en temps, je regardais derrière moi pour voir si l'autochirurgien poursuivait ses efforts.
« C'est vrai, »
me répondit la voix du père capitaine. « Et je commence à comprendre un peu ce que vous ressentez, mes amis. Peut-être comprendrez-vous un jour, à votre tour, ce qu'il y a dans ma tête. »
« Peut-être, » admis-je.
Je l'ignorais naturellement à ce moment-là, mais cela devait se réaliser, plus tard, littéralement. Il me parla soudain d'une voix efficace et presque brusque.
« Nous pensons que cette radamante Némès a court-circuité le téléguidage de l'autopilote à l'aide d'un programme prioritaire, mais nous n'essaierons pas de vous en convaincre. Ne vous gênez pas pour utiliser le vaisseau de descente afin de poursuivre votre voyage sans aucune crainte de nous voir capturer Aîné.
Comment en avoir la certitude ? Demandai-je. Mes brûlures commençaient à être vraiment douloureuses. Dans une minute ou deux, j'espérais trouver l'énergie de fouiller dans les casiers qui entouraient la machine autochirurgicale pour voir si le vaisseau avait son propre Medipack. J'étais à peu près certain d'en trouver un.
Nous allons quitter le système, me répondit de Soya.
Je redressai vivement la tête. « Quelle assurance aurons-nous » insistai-je. Le père capitaine émit un gloussement dans le persoc.
Un vaisseau propulsé par fusion en train de quitter le puits gravifique d'une planète, ça se voit, dit-il.
Nos télescopes indiquent que vous n'avez pour le moment au-dessus de vous qu'une couverture nuageuse assez dispersée. Vous ne manquerez pas de nous remarquer.
« Nous vous verrons quitter votre orbite basse, » répliquai-je. « Comment saurons-nous si vous vous êtes translaté hors du système ou non ?»
Aîné monta alors me tirer le poignet pour parler dans le persoc.
« Père capitaine, où comptez-vous aller ?»
Il y eut un silence où l'on n'entendit plus que le sifflement de la liaison.
« Nous retournons sur Passem, »
murmura finalement de Soya.
Nous possédons l'un des trois vaisseaux les plus rapides de l'univers, et mon compagnon et moi, en notre fort intérieur, avons envisagé de nous donner une autre destination. Mais tout bien réfléchi, nous sommes des soldats, et nous appartenons à la flotte de la Pax et à l'armée du Christ. Notre devoir est de retourner sur Passem et de répondre aux questions, d'affronter ce qu'il nous faudra affronter.
Même sur Hyperion, le Saint-Office de l'Inquisition avait étendu son ombre sinistre. Je frissonnais. Et ce n'est pas uniquement le vent venu de la souche du monde carbonisé qui me faisait froid dans le dos.
Sans compter, poursuivit de Soya, que nous avons un camarade à bord qui n'a pas pu être ressuscité avec succès. Il a besoin qu'on s'occupe de lui sur Passem.
Je tournai la tête vers l'autochirurgien bourdonnant. Pour la première fois au cours de cette interminable journée, je fus convaincu que le prêtre qui nous parlait de là-haut n'était pas notre ennemi.
mère de Soya ?
Murmura Aenée en attirant mon poignet vers elle pour parler à hauteur du père Sok.
Que vont-ils vous faire ? À vous tous ?
De nouveau, un gloussement se fit entendre par-dessus le sifflement parasite.
Si nous avons de la chance, ils nous exécuteront avant de nous excommunier. Si nous n'en avons pas, ce sera l'ordre inverse.
Je vis qu'Aenée ne goûtait pas la plaisanterie.
« Père capitaine, caporal qui ? »
murmura-t-elle.
« Pourquoi ne pas nous rejoindre sur cette planète ? Renvoyez le vaisseau sur Passem avec votre compagnon et venez franchir avec nous le portail suivant. »
Cette fois-ci, le silence se prolongea suffisamment longtemps pour que je soupçonne une panne de communicateur. Mais la voix douce du père capitaine de Soya finit par nous répondre « Je suis tenté de le faire, ma jeune amie. Nous sommes tentés, tous les deux. J'aimerais beaucoup voyager par distance un jour, et j'aimerais encore plus apprendre à vous connaître. Mais nous sommes de fidèles serviteurs de l'Église, ma chère, et notre devoir est clair. J'ai bon espoir que cette aberration, qui s'appelait Radamante Nemes, ait été le résultat d'une erreur. Si nous voulons jamais savoir ce qu'il en est, nous devons retourner là-bas. »
Soudain, il y eut dans le ciel une explosion de lumière bleue. Je penchai la tête à l'extérieur du sas. Nous pûmes voir tous les deux la traînée de lumière d'un blanc bleuté qui passait en pointillé parmi les nuages épars.
« En outre !»
fit la voix de Soya, tendue comme s'il était sous le coup de plusieurs gravités.
« Nous n'avons aucun moyen de vous rejoindre en bas. Cette créature, Nemes, a saboté nos armures de combat, de sorte que même ce choix désespéré nous est interdit. »
Aenée et moi, nous étions à présent assis sur le rebord du sas, en train de contempler la traînée de fusion, qui devenait de plus en plus nette et brillante. Une éternité semblait s'être écoulée depuis que nous avions quitté notre propre vaisseau. Une pensée me frappa soudain, avec la force d'un coup de poing au creux de l'estomac, et je levai le père Sok à hauteur de mes lèvres pour demander
« Père capitaine,
cette Nemes, vous croyez qu'elle est vraiment morte ? Je l'ai vue de mes yeux disparaître dans la lave en fusion, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de gratter pour ressortir ?»«
Nous ne pouvons pas savoir !»
répondit la voix du prêtre capitaine de plus en plus faible.
« De toute manière, je vous conseille de quitter ces lieux le plus vite possible. Le vaisseau de descente est notre cadeau d'adieu. Je vous en souhaite la meilleure utilisation possible. »
L'espace d'une minute, je laissais errer mon regard sur le champ de lave. Chaque fois que le vent agitait une branche morte ou faisait voler des cendres, je m'imaginais voir cette femme infernale en train de ramper vers nous.
« Aenée ! »
fit la voix de Soya.
« Oui, père capitaine. »
« La liaison va être coupée dans un instant et nous ne serons plus visibles. Mais il faut que je vous dise une chose. »
« Laquelle, père capitaine ?»
« Mon enfant, s'il m'ordonne de repartir à votre recherche, non pas pour vous faire du mal, mais seulement pour vous retrouver. Vous comprenez, je ne suis qu'un fidèle et obéissant serviteur de l'Église et un officier de la Pax. »«
Je comprends, mon père. »
lui dit Aenée, dont le regard était toujours fixé sur la traînée de fusion, en train de disparaître à l'horizon ouest.
« Adieu, père capitaine. Adieu, caporal Ki. Et merci. »«
Adieu, ma fille. »
souffla de Soya.
Que Dieu vous bénisse tous les deux. »
Nous l'entendîmes murmurer sa bénédiction, puis la liaison fut coupée brusquement et un épais silence tomba.
« Viens, » dis-je à Aenée.
« On s'en va, tout de suite. »
Nous n'eûmes pas trop de mal à refermer les deux portes du sas. Après avoir vérifié une dernière fois que l'autochirurgien s'occupait convenablement de notre ami, tous les voyants étaient encore au jaune, mais ne clignotaient plus, nous nous sanglâmes dans les couchettes d'accélération. Il y avait des écrans blindés pour couvrir le pare-brise, mais ils étaient levés et la vue s'étendait sur les champs de lave. Quelques étoiles étaient visibles à l'est.
« Allons-y, » déclarai-je.
Je regardais les centaines de commutateurs, lecteurs de disques, pavés tactiles, plaquettes holo, moniteurs, écrans plats, boutons et bidules divers du tableau de bord. Il y avait une console basse entre nos sièges et deux manches universelles avec des logements pour les doigts et des fentes pour insérer des disques de contrôle, plus une douzaine d'endroits où enfoncer des fiches de liaison directe.
« On y va !»
répétai-je en me tournant vers Aînée, toute pâle et menue dans son fauteuil capitonné.
« Tu as une idée de ce qu'il faut faire ?»«
Si on y allait plutôt à pied ?»
Je soupirai. Ce serait peut-être la meilleure solution s'il n'y avait pas... » Je mis mon pouce en arrière par-dessus mon épaule pour indiquer la machine auto-chirurgicale qui bourdonnait toujours.
« Je sais !»
me dit Aîné en se laissant aller en arrière contre son harnais.
« Je plaisantais. »
Je lui touchai la main sur la console. Comme d'habitude, il y eut une légère décharge électrique, une sorte de sensation physique de déjà-vu. Je retirai ma main en disant « Zut de zut, on dit toujours qu'une technologie avancée est plus facile à utiliser qu'une autre, mais j'ai l'impression de me retrouver sous le cockpit de je ne sais quel chasseur-bombardier du passé de l'ancienne Terre. »
« Ces commandes sont destinées à un pilote professionnel, et nous n'en avons pas. »
« Bien sûr que vous en avez un, » pépia le Persoc avec sa voix habituelle.
« Vous savez piloter un vaisseau ?» demandai-je sceptique.
« Essentiellement, on peut dire que je suis un vaisseau, » répliqua la voix pincée tandis que le boîtier du Persoc s'ouvrait avec un déclic. « Veuillez insérer la fiche rouge dans n'importe quel port d'interface de la même couleur. » Je le branchai sur la console. Aussitôt, le tableau de bord s'éclaira, les moniteurs scintillèrent, les ventilateurs bourdonnèrent et le manche universel vibra. Un écran plat au centre du tableau de bord s'éclaira en jaune et la voix du Persoc demanda
« Où souhaitez-vous aller, à Chandimion et à Chéné ?»
L'enfant répondit avant moi.
« Au prochain portail, »
dit-elle d'une voix douce.
« Le dernier. »
Chapitre 58. Il faisait jour de l'autre côté. Nous demeurâmes un instant en vol stationnaire au-dessus du courant, puis nous suivîmes lentement le fleuve. Le Persoc nous avait appris à nous servir du manche pendant qu'il s'occupait des autres systèmes de bord et nous surveillait du coin de l'œil pour corriger nos bourdes éventuelles. Aîné et moi, nous nous regardâmes, puis nous descendîmes au ras des arbres. À moins que la créature infernale ne soit capable de franchir un portail distance, nous étions désormais en sécurité. Cela nous faisait une drôle d'impression de franchir notre premier portail sans le radeau, mais il n'aurait pas pu passer ici de toute manière. Le fleuve Tétis n'était plus qu'un mince filet d'eau coulant entre des berges escarpées. Il ne devait pas dépasser 8 ou 10 cm de profondeur sur 3 ou 4 mètres de large et méandrait à travers un terrain extrêmement boisé. Les arbres étaient à la fois étranges et familiers. Il y avait surtout des essences à feuilles caduques, des campas, des vortes, mais aussi des espèces à feuilles larges et plates comme des demi-chênes, dont les feuilles d'un jaune éclatant et d'un rouge luisant tapissaient les berges du cours d'eau. Le ciel était d'un bleu agréable, moins foncé que celui d'Hyperion, mais plus soutenu que sur la plupart des mondes de type terrestre où nous étions allés. Le soleil était gros et lumineux, sans être toutefois insoutenable au regard. La lumière pénétrait par le pare-brise et nous caressait les genoux. « Je me demande quel effet ça fait de marcher à la surface, » murmurai-je. Le Persoc, ou le vaisseau, ou je ne sais plus quoi, dut croire que je m'adressais à lui car le moniteur central s'anima et les paramètres s'inscrivirent l'un après l'autre. Atmosphère, 0,67 N2, 0,21 O2, 0,009 AR, 0,0003 CO2, H2O variable, moins 0,01. Pression surfacique, 0,986 bar. Champ magnétique, 0,318 Gauss. Masse, 5,976 x 10 exposant 24 kg. Vitesse de libération, 11,2 km par seconde. Gravité en surface, 980 km par seconde. Inclinaison de l'axe magnétique, 11,5 degrés. Moment dipolaire, 7,9 x 10 exposant 25 Gauss par centimètre cube.
C'est drôle, fit la voix du Persoc. Une coïncidence, probablement, mais.
Quoi ? Demandai-je.
Mais je savais déjà. Ces données planétaires correspondent presque exactement à celles qui sont indiquées dans ma base de données pour l'ancienne Terre. C'est très rare que deux mondes se ressemblent à ce...
Arrête !
S'écria Aîné en montrant quelque chose à travers le pare-brise.
Descends ! Pose-toi tout de suite, s'il te plaît !
J'aurais cassé du bois si le vaisseau n'avait pas pris la relève. Il trouva une clairière rocheuse à une vingtaine de mètres de la berge bordée d'arbres et toucha le sol en douceur. Aîné était déjà en train de taper le code du sas. Pour ma part, j'étais paralysé par la vue d'une petite maison au toit plat qui se dressait à la lisière des arbres. Aîné descendit les échelons avant que j'aie pu lui dire quoi que ce soit. Je la suivis en m'arrêtant quelques secondes au passage pour lire les indications de l'autochirurgien. Je fus heureux de constater que plusieurs voyants s'étaient fixés au vert. Je dis au vaisseau « Prenez soin de lui et soyez prêts à décoller d'urgence. À vos ordres, Achandimion. » Nous arrivâmes à la petite maison en remontant le courant sur la rive opposée. C'est une construction difficile à décrire, mais je vais essayer. La maison proprement dite était bâtie sur une modeste chute d'eau de 3 ou 4 mètres de dénivellation qui formait un petit lac naturel à sa base. Des feuilles jaunes flottaient dans l'eau avant de se faire emporter en tournoyant par un courant de plus en plus rapide. Les parties les plus remarquables de l'édifice étaient ses toitures légères et ses terrasses rectangulaires qui semblaient être en surplomb sur la cascade et le petit lac, défiant toutes les lois de la pesanteur. La maison semblait en pierre et en verre, avec un peu de béton et d'acier. Sur la gauche des terrasses en surplomb, un mur de pierre s'élevait sur l'équivalent de 2 étages. Il était percé sur presque toute sa hauteur d'une porte vitrée au cadre métallique d'une douce couleur orangée.
« C'est du cantilever, »
me dit Aîné. « Hein ?»«
C'est ainsi que les architectes appellent ces terrasses en porte-à-faux. » Cantilever. Elle rappelle les gradins de calcaire qui sont là depuis des millions d'années.
Je m'arrêtai pour la regarder. Le vaisseau était hors de vue, caché par les arbres qui se trouvaient derrière nous.
C'est ta fameuse maison, murmurai-je. Celle dont tu as rêvé avant ta naissance?
Oui,
fit-elle les lèvres tremblantes.
Je sais même comment elle s'appelle à présent. Cascatelle.
Je hochai la tête. Humant l'air. Il était chargé de senteurs de feuilles en décomposition, de plantes vives, de terreau, avec en plus je ne sais quelle saveur vivifiante. Il était très différent de l'atmosphère d'Endymion, mais cela me donnait néanmoins une certaine nostalgie du retour.
L'ancienne terre, murmurai-je. Cela se peut-il vraiment?
La terre tout court,
me dit Aîné en me prenant la main.
Entrons.
Nous traversâmes le cours d'eau sur un petit pont situé en amont de la maison. Nous suivîmes ensuite une allée de gravier crissant et entrâmes par une loggia percée d'une porte étroite. Nous avions l'impression de pénétrer dans une caverne confortable. Parvenus dans le vaste séjour, nous demandâmes en criant s'il y avait quelqu'un, mais on ne nous répondit pas. Aînée traversa la grande salle comme si elle était en transe, laissant traîner ses doigts sur les surfaces de pierre et de bois, poussant de petites exclamations chaque fois qu'elle découvrait quelque chose. Il y avait de la moquette à certains endroits, mais de la pierre nue ailleurs. Des rayonnages remplis de livres couvraient une niche murale, mais je ne pris pas le temps d'en lire les titres. Des étagères métalliques couraient sous le plafond bas. Elles étaient vides. Peut-être servait-elle uniquement de décoration. Le mur d'en face était presque entièrement occupé par une énorme cheminée au foyer de pierre non dégrossi, peut-être la partie supérieure du rocher où la maison semblait être plantée en équilibre, dont la dalle s'avançait de près de 2 mètres par rapport au conduit. Un grand feu crépitait dans la cheminée malgré la chaleur printanière de cette journée ensoleillée. J'appelai de nouveau, mais seul un lourd silence me répondit.
On dirait qu'on nous attendait,
murmurai-je avec un sourire pâle. La seule arme que je possédais maintenant était la torche laser que j'avais dans la poche.
C'est vrai,
murmura Aînée.
On nous attendait.
Elle s'avança jusqu'à la cheminée sur la gauche et posa les deux mains sur une sphère de métal posée dans son propre renfoncement mural hémisphérique. Elle devait faire 1,5 mètre de diamètre et était d'une riche couleur rouge brique.
L'architecte l'avait conçue comme une sorte de bouilloire pour réchauffer le vin, me dit-elle. Mais elle n'a été utilisée qu'une seule fois. Ensuite, ils ont chauffé le vin dans la cuisine avant de la porter ici. Elle était trop grosse, et le vernis est probablement toxique.
C'est l'architecte que tu cherchais? Celui avec qui tu veux étudier?
Oui.
Je croyais que c'était un génie. Si c'en était un, il n'aurait pas fait une bouilloire trop grosse et trop toxique pour qu'on puisse s'en servir. Elle se tourna vers moi avec un sourire. Ou plutôt, avec un rictus.
Les génies aussi font des bourdes, Roll. Si tu ne me crois pas, considère notre aventure. Viens, jetons un coup d'œil.
Les terrasses étaient superbes et la vue sur la cascade fort agréable. À l'intérieur, les plafonds et les encorbellements étaient bas, mais cela contribuait à donner l'impression, à travers tout ce vert, de se pencher du cœur d'une caverne vers le monde verdoyant de la forêt. Dans le séjour, une trappe de métal et de verre s'ouvrait pour former des marches soutenues par des tiges ancrées au sol au-dessus d'elle et qui ne menaient qu'à une plateforme de ciment à peine plus large, surplombant un petit lac formé par le cours d'eau alimentant la cascade.
« Le plongeoir !»
fit Aînée comme si cet endroit lui était parfaitement familier. « À quoi ça sert ?» demandai-je en passant la tête par l'ouverture.
« À rien de bien pratique, » me répondit-elle. Mais l'architecte a considéré, je cite, que c'était absolument nécessaire à tout point de vue.
Je lui touchai l'épaule. Elle se tourna vers moi en souriant, non pas de façon mécanique ou rêveuse, mais avec une vitalité presque communicative.
Où sommes-nous, aîné? Cascatel. Bear Run, ouest de la Pennsylvanie.
Une nation?
Une province. Ou plutôt un État. Faisant partie des anciens États-Unis d'Amérique. Continent d'Amérique du Nord. Planète Terre.
La Terre, répétai-je en regardant autour de moi. Mais où sont-ils tous? Ouais, ton architecte? Elle secoua la tête.
Je n'en sais rien. Nous devrions être fixés bientôt.
Combien de temps allons-nous rester ici, ma grande? J'avais dans l'idée de commencer à rassembler du matériel, des vivres et des armes, pendant que Abétik finissait de récupérer, afin de repartir au plus vite.
« Quelques années, »
me dit-elle.
« 6 ou 7, pas plus, je pense. »«
Quelques années ?» Je m'étais figé sur la terrasse où nous avions débouché en haut des marches. « J'ai bien entendu. Tu as dit « des années », insistai-je.
Il faut que j'étudie avec cet homme, Roll. J'ai des choses à apprendre.
En architecture?
Oui. Et aussi sur moi-même.
Et moi, qu'est-ce que je vais faire pendant que tu apprendras des trucs sur toi-même? Au lieu de me répondre par une plaisanterie, elle hocha gravement la tête.
Je sais. Ça semble un peu injuste. Mais tu auras des choses à accomplir pendant que je grandirai.
J'attendis sans rien dire.
La Terre a besoin d'être explorée,
reprit-elle.
Mon père et ma mère l'ont visitée. D'après ma mère, les lions, les tigres et les ours, c'est-à-dire les forces qui ont enlevé la Terre avant que le technocentre ne puisse la détruire, s'en servaient pour faire des expériences.
Des expériences? De quel genre?
Des expériences sur le génie essentiellement. Mais je devrais peut-être dire plutôt sur l'humanité.
Explique. Elle désigna d'un geste large la maison autour de nous.
Cette demeure a été édifiée en 1937.
Après Jésus-Christ?
Oui. Et je suis sûre qu'elle a été détruite au cours des émeutes de classe nord-américaine du XXIe siècle, sinon avant. Ceux qui ont amené la Terre ici l'ont reconstruite, je pense. De même qu'ils ont reconstruit la Rome du XIXe siècle pour mon père.
La Rome? Je me faisais l'impression d'un idiot sourd comme un pot en train de répéter tout ce que disait cette fillette, la main encornée autour de l'oreille. Il y a des jours comme ça.
La Rome où John Keats a vécu ses derniers jours,
me dit-elle.
Mais c'est une autre histoire.
Ah, je vois. J'ai lu ça dans les cantos de ton oncle Martin. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé non plus. Elle fit son geste habituel de ses deux mains.
Je ne sais pas grand-chose, Roll. Mais je peux te dire que ceux qui ont amené la terre ici amènent aussi les gens en même temps que les bâtiments et les cités anciennes. Ils cherchent à créer une dynamique.
Au moyen de la résurrection ? Ma voix était sceptique.
Non. Plutôt par... Tu n'ignores pas que mon père était un cybride. Sa personnalité résidait dans une matrice IA, mais son corps était humain.
Mais toi, tu n'es pas une cybride. Elle secoua la tête.
Tu sais bien que non.
Elle me précéda vers le bord de la terrasse d'où nous dominions le cours d'eau qui se précipitait vers la petite cascade.
Tu auras pas mal de choses à faire pendant que j'irai à l'école,
me dit-elle. Par exemple ?
En plus d'explorer la Terre pour essayer de comprendre ce que ces entités cherchent à accomplir ici, il faudra que tu repartes un peu avant moi pour récupérer notre vaisseau.
Notre vaisseau ? Je me forçais à retirer de mon oreille mon cornet métaphorique. Tu veux dire qu'il me faudra faire tout le chemin en sens inverse à travers les portails d'Istrance pour aller chercher le vaisseau du consul ?
Oui.
Et le ramener ici ? Elle secoua la tête.
Cela risquerait de prendre des siècles, Roll. Nous nous donnerons un rendez-vous quelque part dans l'ancien Retz.
Je me frottai la joue. Je sentis crisser ma barbe de plusieurs jours. Et à part ça, tu as d'autres petits projets d'une dizaine d'années pour me tenir occupé ?
Juste un aller-retour dans les confins pour voir les extros. Mais je t'accompagnerai pour ce voyage-là.
D'accord. J'espère qu'il n'y a pas trop d'autres aventures qui nous attendent.
Je ne suis plus tout jeune, tu sais.
Je faisais des efforts pour me montrer enjoué, mais le regard d'aîné était on ne peut plus grave. Elle plaça ses petits doigts dans ma main.
Ne dis pas ça, Roll, car ce n'est qu'un début.
Le père Soc se mit à vibrer avec insistance. Qu'est-ce qu'il y a ? Demandai-je avec un sursaut d'inquiétude pour Abétique.
Je viens de recevoir des coordonnées sur la fréquence générale, me dit la petite voix éraillée qui semblait intriguée.
Pas de transmission vocale ou visuelle ?
Non, rien d'autre que des coordonnées de déplacement accompagnées d'indications d'altitude optimale. Ce n'est qu'un plan de vol.
Pour aller où ?
Un point situé sur ce continent, à 3000 km au sud-ouest de l'endroit où nous sommes actuellement.
Je regardais Aîné. Elle secoua la tête. Aucune idée ? Demandai-je.
J'en ai une, mais sans certitude. Allons nous faire surprendre.
Sa petite main était toujours dans la mienne. Je ne la lâchai pas lorsque nous retournâmes, parmi les feuilles jaunes, sous la lumière dorée du matin, vers le vaisseau qui nous attendait. Chapitre 59.
J'ai dit un jour plus haut que vous lisiez ceci pour de mauvaises raisons. Ce que j'aurais dû dire, c'est que je l'ai écrit en fait pour de très mauvaises raisons. J'ai rempli ces jours et ces nuits sans discontinuité. J'ai rempli ces pages de micro-vélin avec mes souvenirs d'aîné. Aîné enfant, sans dire un mot de sa vie de Messie, la Messie que vous connaissez tous probablement et que vous vénérez peut-être à tort. Mais ce n'est pas pour vous que j'ai écrit ces pages, je m'en aperçois maintenant. Ni pour moi-même. J'ai fait vivre Aîné enfant sur le papier parce que je veux qu'elle soit vivante en tant que femme, contre toute logique, malgré les faits, malgré tous les espoirs perdus. Chaque matin, à chaque illumination préprogrammée des globes d'éclairage, devrais-je dire, je me réveille dans ce casier à chat de Schrödinger de 6 mètres sur 3, et je m'émerveille d'être vivant. Une nuit s'est encore écoulée sans le parfum d'amande amère. Chaque matin, je me bats contre le désespoir et la terreur en écrivant ces mémoires sur mon ardoise et en empilant les pages de micro-vélin à mesure qu'elles sortent. Mais le recycleur de mon microcosme est limité. Il n'est capable d'en produire qu'une douzaine à la fois. Lorsque je termine 12 pages de mes mémoires, je les réinsère, en commençant par la plus vieille, dans la fente de l'appareil,
afin d'en avoir de toutes neuves pour continuer. C'est le serpent qui se nourrit de sa propre queue. C'est de la démence, ou alors l'essence absolue de la lucidité. Il est possible que le processeur de l'ardoise retienne en mémoire tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'écrirai encore dans les jours qui viennent, si mon destin m'en accorde quelques-uns. Mais la vérité est que tout cela m'est égal. Seules les 12 pages de microvélin que j'écris chaque jour ont de l'intérêt pour moi. Ces pages vierges et immaculées le matin, noircies d'encre et couvertes de mes fines pattes de mouche le soir. C'est alors que pour moi, Aîné prend vie. Mais la nuit dernière, lorsque les lumières de mon casier de Schrödinger se sont éteintes, alors que plus rien d'autre ne me séparait de l'univers que la coquille statodynamique d'énergie figée qui m'entoure, avec son ampoule de cyanure, son minuteur qui bat et son incorruptible détecteur de radiation, la nuit dernière, dis-je, j'ai entendu Aîné qui m'appelait par mon nom. Je me suis redressé dans l'obscurité totale, trop étonné et trop plein d'espoir pour essayer de commander l'allumage des globes, certain d'être encore en train de rêver, lorsque j'ai senti ses doigts me toucher la joue. C'était ses doigts. Je les connaissais bien quand elle était enfant. Je les avais embrassés quand elle était femme. Je les avais portés à mes lèvres quand on me l'avait enlevé définitivement. C'était ses doigts qui me touchaient la joue. Son haleine était suave et tiède contre mon visage. Ses lèvres étaient chaudes contre le coin de ma bouche. « Va s'en aller d'ici, Roll, mon chéri !» chuchota-t-elle la nuit dernière dans les ténèbres. « Pas tout de suite, mais dès que tu auras fini ton récit, dès que tu te seras souvenu de tout, dès que tu auras tout compris. » Je voulus la toucher à ce moment-là, mais je sentis sa chaleur s'éloigner. Quand les lumières se rallumèrent, j'étais tout seul dans mon microcosme ovoïde. J'avoue que je fis les 100 pas jusqu'à l'heure habituelle de mon réveil. Ma plus grande peur ces derniers jours et mois n'était pas la mort, Aîné m'avait appris à la replacer dans sa juste perspective, mais la folie. La démence était la seule chose susceptible de me dérober ma lucidité et mes souvenirs d'Aîné. J'aperçus alors quelque chose qui me figea sur place. L'ardoise était activée. Le stylet n'était pas à sa place habituelle, mais glissait sous le couvercle, comme faisait toujours Aînée quand elle tenait son journal durant nos voyages lorsque nous avions quitté la Terre. D'un doigt tremblant, je recyclais la liasse de feuilles de la veille et activais le port de l'imprimante. Une seule page émergea de l'appareil. Elle était couverte de lignes manuscrites d'une écriture que je connaissais bien, celle d'Aînée. Je suis à une croisée des chemins. Ou bien j'ai réellement perdu la mémoire et rien de tout cela n'a d'importance, ou bien je suis sauvé et tout prend maintenant une très grande importance. Je lis ces lignes en même temps que vous, en espérant être sain d'esprit, en espérant le salut non point de mon âme, mais le salut de ma personne, dans la certitude renouvelée d'une réunion, une réunion physique et réelle, avec celle dont je garde le souvenir et l'amour plus que toute autre personne. Et c'est cela la meilleure raison de me lire. Chapitre 60.
Tu peux considérer cela, Roll, comme un post-scriptum aux mémoires que tu as rédigées aujourd'hui et que j'ai lues cette nuit. Il y a tant d'années de cela. Ces 3 dernières heures de notre premier voyage ensemble, quand Abétic endormi, toi, mon Roll chéri, et moi, nous sommes allés avec le vaisseau de descente jusqu'à Taliesin Ouest, où j'ai commencé mon long apprentissage. J'avais envie, ce jour-là, de tout te dire. Les rêves où je nous voyais amants célébrés plus tard par les poètes, les visions des grands dangers qui nous guettaient, la découverte de nouveaux amis, la mort de nos compagnons, la certitude d'affliction indicible qu'il nous faudrait supporter, celle aussi de triomphe inimaginable à venir. mais je ne t'ai rien dit. Te souviens-tu? Nous n'avons pas cessé de sommeiller durant le vol. Comme la vie est étrange parfois. Nos dernières heures ensemble, la fin de l'une de nos périodes les plus intimes, la fin de mon enfance, le commencement de notre vie d'adulte à part entière. Et dire que nous les avons passés, ces moments, à dormir et dans des couchettes séparées. La vie est brutale, c'est ainsi. On perd irrémédiablement de précieux instants au profit de futilités sans nom. Il faut dire que nous étions fatigués. Nous avions quelques rudes journées derrière nous. Tandis que le vaisseau continuait de descendre sur le désert au sud-ouest en direction de Taliesin et de ma nouvelle existence, j'ai déchiré une page de mon journal intime en lambeaux. Il avait survécu tout de même à l'eau et aux flammes, alors que la majeure partie de mes vêtements y était restée. Pour t'écrire rapidement quelques mots. Tu dormais. Ton visage était contre le vinyle de la couche d'accélération et tu bavais légèrement. Tes sourcils avaient brûlé et il te restait juste une touffe de cheveux au sommet du crâne, ce qui te donnait un air comique, celui d'un clown surpris en train de sommeiller. Plus tard, nous avons parlé de clowns, tu te souviens, Roll? Pendant notre odyssée chez les extros. Tu avais vu un spectacle de clown à Port-Romance adolescent, et j'en avais vu moi aussi à Jacktown, à l'occasion de la fête annuelle des pionniers. Nos brûlures et les onguents que nous avions généreusement appliqués dessus pour calmer les douleurs de nos joues, nos tempes et nos lèvres, nous faisaient vraiment ressembler à des clowns maquillés de rouge et de blanc. Tu étais adorable. J'étais amoureuse de toi, en avant et en arrière dans le temps. Je t'aimais au-delà des frontières de la durée et de l'espace. J'écrivis rapidement mon petit mot, le glissai dans la poche ou ce qu'il en restait de ta chemise en lambeaux, et t'embrassai tout doucement au coin de la bouche, à un endroit qui n'était ni brûlé ni couvert d'onguents. Tu fis un mouvement mais sans te réveiller. Tu ne me parlas pas du petit mot le lendemain ni les jours suivants, et je me suis toujours demandé si tu l'avais trouvé. Ou s'il avait glissé de ta poche trouée, ou encore si tu avais jeté la chemise sans le lire à notre arrivée à Taliesin. Le mot contenait des vers écrits par mon père il y a des siècles. Il est mort, et il a ressuscité d'une certaine manière, sous la forme d'une personnalité hybride, avant de mourir de nouveau comme un homme. Mais il a continué de vivre en essence, tandis que sa personnalité parcourait le méta-espace et quittait finalement Hyperion en compagnie du consul, dans les rubans d'ADN de l'IA du vaisseau. Les dernières paroles qu'il adressa à ma mère ne seront jamais connues, malgré les licences poétiques de mon oncle Martin dans ses cantos. Mais les mots suivants furent découverts dans le stylet à texte de ma mère, quand elle s'éveilla le jour où il la quitta définitivement, et elle garda le feuillet imprimé original durant le restant de ses jours. Je suis bien placé pour le savoir. Je me suis glissé en cachette au moins une fois par semaine, dès que j'ai eu 2 ans, dans sa chambre à Jacktown sur Hyperion, pour y lire ses vers rapidement couchés sur le vélin jauni. Ce sont les mots dont je t'avais fait présent, accompagnés d'un baiser pendant ton sommeil. À la fin de notre dernier voyage, mon rôle chéri. Ce sont les mots que je te laisse ce soir avec un baiser pour te réveiller. Je te demanderai de me les réciter la prochaine fois que je viendrai, quand l'histoire sera terminée et que notre dernier voyage commencera. Tout objet de beauté est une joie qui demeure. Son charme croît sans cesse et jamais ne sombrera dans le néant, mais restera pour nous un paisible havre au sommeil peuplé de doux songes, riche de santé et de respiration paisible. Ainsi, Roland Dimion, jusqu'à nos retrouvailles dans tes pages, dans la frénésie, je te dis au revoir. Enfant nourri par le silence et les lentes années, sylvestre conteur qui sait en ta langue exprimer un récit tout fleuri plus suavement que nos poèmes, quelle légende frangée de feuilles s'évoque alentour de tes flancs, légende de dieu ou de mortel, ou des deux peut-être? à Tempé ou dans les vallons d'Arcadie? Quels sont ces hommes ou bien ces dieux et ces vierges rebelles? Et cette folle poursuite qui se débat pour s'échapper? Quels sont ces pipeaux et ces tambourins? Quelle est cette frénésie? En attendant, mon amour, je te souhaite de doux songes, de la santé et une respiration paisible.
Vous venez d'écouter Endymion de Dan Simmons, traduit de l'américain par Guy Abadia, lu par Mathieu Dahan. Une production d'Audible Studio.
Merci et à bientôt chez Audible.